Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 15 juin 2018. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Les programmes du studio Kalangou, pour rappel, sont relayés dans 34 localités du Niger, les 8 régions y compris. Et ce, du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Quatre sujets d'actualité au menu du forum de ce soir. Nous parlerons tout d'abord de la fête de Ramadan intervenue le jeudi avec tout ce qu'il y a autour des préparatifs jusqu'à l'organisation de la fête. Au plan politique, il sera question de la création d'un tout nouveau front de l'opposition politique. Il s'agit du Front patriotique pour la patrie et pour le peuple qui regroupe le MPN Kishinkasa, le MDR Tarna et les cadres entre autres. Il sera également question dans le forum de la presse de ce soir de la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante dans les régions d'Agadez et de Tillabéri. Enfin, en sport, nous parlerons de la Coupe du Monde Russie 2018 ouverte hier jeudi à Moscou. 5 pays africains y prennent part, Égypte, Maroc, Tunisie, Nigeria et Sénégal. Nous parlerons aussi de l'élection des pays qui organiseront la mondiale 2026. On les connaît déjà, c'est le trio USA, Canada, Mexique qui l'a remporté face au Maroc. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de nos confrères Issa Amorou Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa.
Bonsoir Mamadou.
Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Gare.
Bonsoir.
Et Roufaï Dandoua qui est avec nous, journaliste indépendant. Bonsoir Roufaï.
Bonsoir.
Présentation à la Sante Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum de la presse que nous ouvrons par la célébration de la fête Eid el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne, le mois de Ramadan plein d'adoration et de dévotion. Une fête marquée par les préparatifs qui font appel souvent à des dépenses ostentatoires, le message du chef du gouvernement au peuple ainsi que le message traditionnel des évêques du Niger à la communauté musulmane, etc. Commençons par vous, Gare Amadou, cette fête avec tout ce qu'il y a autour. Quels sont vos avis sur les faits marquants de cette fête entre allant des discours, des autorités, des leaders religieux, notamment les évêques?
Oui, d'abord, avant de commencer, je souhaite vraiment une bonne fête à tous les musulmans et je demande pardon à tous ceux que mes propos auraient offensés lors des débats ou des bas. Vraiment, je le demande pardon. En tout cas, moi, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé aussi. Et donc, j'espère que cette nouvelle année sera meilleure par rapport à celle qui s'est achevée. Je crois que cette fête a été l'occasion aussi d'une coup de communion entre les différentes communautés. C'est un moment de paix. Parce que c'est au cours de cette fête-là que, quand même, même s'il y a des divergences entre certains Nigériens, le jour de la fête, tout le monde laisse tomber. On fait balle à terre et puis dans une communion, vraiment on devient un seul bloc. Et le message de la communauté chrétienne aussi était un message extrêmement fort parce que c'est la solidarité entre les religions qui doit faire en tout cas progresser la planète, pas l'antagonisme entre les religions.
Issa Amorou Madougou.
C'est une occasion vraiment extraordinaire. C'est pour cela que j'ai dit la fête du Ramadan au Niger. C'est entre un ensemble de festivités religieuses et traditionnelles, comme vous voyez, notamment Zender à Maradi, bien avant prélude les fêtes traditionnelles au niveau le Tororo à la nigérienne, je pense, c'est extraordinaire et que nous devons c'est des choses extraordinaires que nous devons valoriser. Et ça m'a tellement plu, je suis à Niamey, j'ai vu les images de Zender et je me suis transporté comme ça virtuellement dans l'ambiance et c'était extraordinaire de voir que cet aspect culturel que les gens continuent à une période de la vie où les technologies ont envahi les esprits, où les gens continuent à conserver cette tradition traditionnelle. Et c'est pour cela que je lance un appel également pour finir aux autorités en charge de la culture d'intensifier les efforts pour qu'on puisse conserver ce patrimoine culturel. C'est ça qui fait de notre identité. On peut vendre cela.
Roufaï Dandoua, quels sont vos avis sur les faits marquants de la fête de Ramadan et d'El Fitr?
Je pense déjà qu'il faut remercier de nous avoir montré ce moment parce que beaucoup avaient perdu la vie, ils ont quitté, pas que par le terrorisme, mais par les faits naturels. Et donc c'est l'occasion pour remercier Dieu de continuer de nous donner encore un souffle de vie. C'est très important. Et donc oui, les excuses, ça c'est traditionnel. Et je pense que la fête de Ramadan ou Tabarski, ce sont ce genre d'événements qui viennent nous démontrer chaque fois qu'au Niger, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, malgré les tiraillements politiques, sociaux, culturels, de part et d'autre, qu'on est encore un peuple uni et que rien ne va venir ébranler cela, rien ne va entamer cela. On dit, c'est vrai, il y avait à un certain moment, il y a le cousinage à plaisanterie qui fait qu'on ne peut pas, mais non, il y a aussi la religion.
Je pour pense vous, que cette fête, c'est une démonstration d'unité.
Je pense que oui, c'est le ciment même qui fait qu'au Niger, on va s'insulter, on va se quereller, on va se tirailler, mais rien ne va arriver. Il n'y aura pas, comme les gens le passent, de guerre. Non, il n'y aura pas ça au Niger.
On a vu ce message aussi des évêques qui, à chaque moment de
oui, c'est dans le même contexte.
Les chrétiens qui souhaitent bonne fête aux musulmans.
Eux ont compris. Ce n'est pas parce que sont chrétiens qu'ils ne comprennent pas la force de cette religion que nous avons. Et la religion musulmane. Ils ont compris cela. Et ça, c'est un ciment très fort. Au-delà de cela, il y a les pardons. Vous voyez, les gens se pardonnent. Tu sais, et ça, c'est aussi la force de la religion. Dieu donne cette occasion. Tu sais que, par exemple, je ne peux pas aller dire à Garé, je t'ai insulté hier, j'ai parlé de toi. Excuse-moi. Mais quand il y a la
fête, on profite.
Voilà, Dieu étant, voilà, il permet aux gens de faire cela. Et Dieu accepte. Alors, et sinon, pour parler, comme l'a dit Garé, on a vu qu'il y avait vraiment la charité des produits, surtout le pentade. Moi, je ne comprends pas. D'abord, pourquoi les pentades? Pourquoi ça devient extrêmement cher? 6000 francs.
Ce matin, nous avons fait le tour. bizarrement, les prix ont chuté.
6000 francs, une pentade, ça veut
maintenant,
dire que.
Maintenant, tu peux trouver une pentade à 3000.
Il y a des gens qui achètent 10. Ça veut dire que tu achètes une pentade de 60 000 francs sans les condiments. Tu imagines ce que ça fait?
Bien, nous passons à autre chose. En politique, je le disais le week-end dernier, il y a eu la création d'un tout nouveau front de l'opposition politique nigérienne. Il s'agit du Front patriotique pour la patrie et pour le peuple, FPP. Ce front regroupe principalement le MPN Kinshasa d'Ibrahim Yacouba, qui a récemment quitté, comme vous le savez, la majorité au pouvoir, le MDR Tarna du docteur Adel Roubert, ainsi que plusieurs autres petits partis et des organisations de la société civile. Ce front prône la rupture générationnelle. Je vous propose d'ailleurs de suivre le président du front, Ibrahim Yacouba.
Ce gouvernement-là ne considère pas nos opinions. Ce gouvernement-là ne respecte pas et ne fait pas attention à nos priorités. Donc le rapport des forces démocratiques, le front patriotique l'imposera. Nous faisons ce combat dans l'héritage de notre tradition de lutte. Parce que l'héritage de notre tradition de lutte, c'est les partis politiques et la société civile. Nous sommes fiers de la société civile nigérienne. Elle n'a aucun projet foutiste. Donc cette société civile, elle est avec nous. Et nous porterons le combat ensemble parce que c'est ça la tradition de lutte dans notre pays. Je vais vous dire aussi du fond de mon cœur, et je l'ai dit pendant le mois de Ramadan, moi Ibrahim Yacouba, je n'ai pas de tuteur, je n'ai pas de directeur de conscience. Que personne n'imagine qu'on puisse faire un truc qui correspond à son projet. Il y a ceux qui ont appliqué et qui ont choisi le confort. Nous aurions pu le choisir nous-mêmes. Nous voulons la difficulté parce qu'au bout, nous changerons notre pays. Et c'est cela notre mission aujourd'hui, sauver notre pays.
Ibrahim Yacouba, que vous venez d'écouter, il est le président du MPN Kinshasa, en même temps le président de ce front, le Front patriotique pour la patrie et pour le peuple. Alors, Rufai Dandoua, comment vous analysez cette volte-face d'Ibrahim Yacouba qui crée un autre front quand on sait qu'il devait initialement rejoindre la coalition de l'opposition et de la société civile, à savoir le Front démocratique et républicain?
Oui, merci. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que le Front a été créé avec
Adel Roubaix
et le MPN et quelques petits partis politiques. Je pense que tous sont des petits partis politiques. Adel Roubaix, je ne sais pas s'il a 1000 personnes au Niger. Le MPN aussi, malgré le score, c'est un petit parti politique. Encore, je pense, pour le moment. Et vraiment, je ne suis pas contre la création de fonds. Ça prouve qu'il y a encore des idées qui peuvent germer par-ci, par-là. Mais ce que je ne comprends pas avec les hommes politiques nigériens, tout bord confondu, c'est pour ça que je pense que je ne peux pas faire de la politique. C'est le changement brusque et subit des uns et des autres comme des caméléons. Il y a quelques mois encore, lorsqu'on écoutait Ibrahim Yacouba parler du président de la République en disant que le président a fait en 4 ans ce que tous les gouvernements réunis, il y a des audios qui sont là, n'ont pas fait. Il a dit que le président est un beau gosse. J'ai suivi récemment qu'il marche bien, la preuve qu'il se porte bien, qu'il est en bonne santé. Aujourd'hui, et tu étais dans le même gouvernement, malgré toutes les critiques, malgré tout ce qui a été fait, tu as pensé que tout était clean, tout était blanc comme neige. Tout d'un coup, tu changes parce qu'il y a une histoire d'intérêt personnel égoïste des hommes politiques nigériens, tu changes et maintenant tu viens, tu insultes le régime en place. Et encore, si vous écoutez cet audio, il lance une pique à l'endroit de Hama Amadou. Il n'a pas dit le nom, mais on comprend aisément que c'est de là qu'il s'agit. Vous savez, c'est des calculs politiques qui sont en train d'être faits. Il pense qu'aujourd'hui, Hama n'est pas là, n'étant pas là, il a été déjà condamné, il faut qu'il puisse à peine, et quand tu prends une peine de 1 an, tu ne peux plus être candidat. Maintenant, il veut se placer pour
récupérer, vous voulez dire.
Parce que Maman Ousmane étant là, Maman Ousmane ne parle plus, on ne sait même pas où il est, les autres, on ne sait pas où ils sont encore, Hama n'est pas là. Lui, maintenant, il faut qu'il se place en chef de file officieux, parce qu'officiellement, on sait qui il est, et officieux pour...
C'est pas mal, non?
Mais c'est de l'opportunisme politique que je condamne. Et c'est bien d'avoir des alliances, mais il y a déjà une opposition. Bien. Profite de cela, sois dans l'opposition. Maintenant, tu peux t'imposer. Mais il faut que tu crées un mouvement avec des petites personnes qui n'ont personne derrière eux. Le mouvement, tout le monde sait pour qui il roule. Et maintenant, il faut que tu sois leur leader, toi-même, tu es le patron de quelqu'un. Ce n'est pas ça pour moi, pour la conception de la politique.
Bien, et Issa Amadou Madougou, vous, quelle est votre analyse de cette situation? On sait qu'on l'a vu, Ibrahim Yacouba, à la création du FDR, il était parti, on lui avait demandé à l'époque d'adhérer à un des groupements qui constituent donc le FR. Finalement, lui-même, il a créé un autre front. Il l'a dit lors de son discours qu'il veut faire deux oppositions. D'abord, une opposition au régime et une autre opposition aussi à la classe politique issue de la conférence nationale.
Écoutez, moi je pense que tout d'abord la création de nouveau front ne constitue rien un problème parce que nous sommes dans un multipartisme intégral et cela est permis. Mais c'est que coup de chapeau pour Ibrahim Yacouba qui a pu profiter de cette publicité aujourd'hui qui se profile, c'est que ce qu'il a voulu aujourd'hui, il est sous les projecteurs et aujourd'hui il est en train de traîner l'opinion dans une direction où il veut, mais quand même ce n'est pas sûr qu'il va gagner de là. C'est une guerre.
La rupture générationnelle, mais écoutez, est-ce que vous pensez que c'est possible?
Mais aujourd'hui, la rupture générationnelle, c'est quelque... Moi, personnellement, je suis avis d'avis pour la rupture générationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il y ait devrait avoir cette démocratie au sein même des formations politiques pour qu'il y ait ce changement.
Parce est-ce que c'est possible?
Ben, c'est bien possible parce que nous sommes des humains. Si les autres l'ont réussi, pourquoi nous ne pouvons pas le réussir? C'est ça que je dis. Quand les gens disent que d'autres pays ont fait, et pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Mais quand même, il faut regarder la composition du front. Il y a des gens qui étaient tout récemment avec le régime. Adal était avec le régime. Ibrahim Yacouba avait été le régime, qui ont quitté le régime. Et quand on voit les autres aussi, qui sont dans une posture où qui n'est pas toujours claire, c'est comme si aujourd'hui c'est les intérêts qui guident. Il n'y a pas une volonté vraiment affichée de vouloir faire du bien et aller vers le changement dont les gens sont en train de prôner. On ne se regroupe pas, par exemple, parce qu'on a le même ennemi à battre. Non, en politique, ça ne se fait pas. On n'est pas dans une guerre où il y a des alliés, où c'est l'ennemi qu'il faut abattre, non. On le fait pour répondre à certaines aspirations du peuple. On ne le fait pas pour ses propres intérêts. Alors qu'on sent que, jusque-là, au bénéfice du doute, on va observer, voir la durée de ce front. Mais on sent que les gens ne sont pas du même bord idéologique. Ça, c'est clair. Chacun est dans son propre projet. Il y a des gens qui ont suivi parce que juste c'était un mouvement. Il y a d'autres qui sont venus parce qu'ils avaient des visées propres à eux pour protéger leurs propres intérêts. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils sont en train de faire le jeu de leur maître. Parce que tout simplement, on sait, au Niger, sur les 1 272 000 carrés, tout le monde est 17 millions pratiquement. Si même on ne se connaît pas, on se sait, comme on veut le dire dans les fadas. On se sait très bien. Et chacun sait comment chacun pense. Donc c'est pour cela qu'on va leur accorder du temps pour les observer. Mais quand même, Ça, l'analyse pour finir, c'est que on ne peut pas faire de l'opposition à rien dispersé. Voyez-vous, c'est ce qui a fragilisé l'exemple en RDC, l'opposition. Tellement qu'il y a de fraude, chaque jour on en crée, et jusqu'à ce qu'ils ont donné raison. Quand vous voulez faire une lutte, ne le faites pas pour vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire cette lutte en fonction des intérêts du peuple, au nom de qui vous avez créé ce fraude. Mais en attendant de voir, moi je pense que les prochains jours vont nous édifier plus en avantage par rapport aux ambitions de ces leaders-là qui ont décidé de faire chemin ensemble.
Et Gare Amadou, vous, quelle est votre analyse par rapport à ce à quoi nous assistons, la création de ce tout nouveau front dont Ibrahim Yacouba Diempen Kishan Kassa est président et qui prône la rupture générationnelle? Est-ce que pour vous c'est possible et comment?
Oui, mais la rupture est possible, mais avec qui? C'est la question qu'il faut se poser. Mais pas avec quand même ce conglomérat de partis politiques et d'acteurs de la société civile qui déjà ont des passés assez quand même assez sombre, n'est-ce pas, au sein même de structures estudiantines ou au sein de formations politiques. Le principe de la création d'un front, il n'est pas, c'est pas mauvais en soi. Donc c'est normal que les gens s'organisent. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que aussi bien ce nouveau front que le FDR, c'est toujours le bloc de l'opposition au régime. Et moi ce qui me gêne, c'est deux choses. Première chose, on voit dans ce front-là, Adel Roubaix du MDA Tarna, qui a été de tous les fronts qui ont été créés. Tous les fronts qui ont été créés, il était là-bas. Et ce monsieur a quand même appelé au renversement du régime. Ce monsieur a envoyé des messages appelant les militaires à renverser le régime.
Vous avez les preuves.
Mais c'est publié sur Tamtam Info. C'est publié, c'est des communiqués. On le voit bien sûr, c'est pas de Facebook, tout ce qu'il raconte. C'est un monsieur qui, pour moi, je pense, c'est indécent pour un homme politique qui se respecte de s'asseoir à la même table que ce monsieur-là. Ça, je l'ai dit. Deuxième chose, ce sont les propos de Ibrahim Yacouba. Je suis désolé, comme l'a dit Rufai, c'est quand même étonnant. Quand on voit les propos aussi violents qu'il prononce, c'est un ami, mais moi je suis choqué. Quand même, c'est vous, le chef de la diplomatie du Niger, qui était, il y a quelques mois encore, chef de la diplomatie nigérienne. Vous êtes parti vendre l'image du Niger, vous êtes parti vendre l'image du président de la République. Et quelques jours même avant que vous ne soyez démis, le président de la République vous a mandaté pour partir présider une réunion en son nom. Vous l'avez présidé. Et vous avez...
Pourquoi les propos, ces propos dont vous dites qu'ils ne sont pas décents et qu'ils l'ont retenu?
Non, pour moi, on peut se quitter, n'est-ce pas? C'est comme une femme et son mari. On peut vous séparer, mais rester, il faut avoir de l'humilité. Parce que cette femme-là, vous l'avez aimée.
Lui, il avait parlé de...
Non, mais attendez, dit
que ce gouvernement-là n'a pas de respect.
C'est pas lui qui doit dire ça. Moi, je peux comprendre si Adel Roubaix lui dit. Vous comprenez? Je peux comprendre si Abdoulmoune dit, mais pas quand même toi, Ibrahim Yacouba. Quand tu as été chuchoté, on t'a donné le ministère des Affaires étrangères, qui est un poste hautement stratégique. Mais le parti du président t'a laissé ça. Et tu l'as pris, et tu as fait le travail. Jusqu'à ce que tu sois évacué parce que tu as été viré. Mais excusez-moi, mais c'est mon ami, mais ça me fait de la peine. C'est pas lui qui a démissionné. Et donc, toi, tu as été viré. Mais alors, brusquement tu mets une robe où tu commences à critiquer, tu commences à attaquer aussi violemment. Non, c'est ça que je trouve qu'il manque de stratégie. Il aurait mieux fait de laisser quelqu'un d'autre parler. Ça aurait été plus crédible. Mais lui, qui apparaît en train de vilipender, ça a choqué beaucoup de Nigériens. Parce que, quand même, l'histoire est là, les gens n'oublient pas. Et c'est tellement récent, et c'est tellement brusque, son attitude, que vraiment les gens ont été vraiment dépassés. Les gens se disent que, bon, la politique au Niger, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dedans, quand tu as la mangeoire,
tout
le monde est beau, mais dès que tu sors, ah, tout le monde est vilain, tout le monde est affreux.
Face à cette situation, Rufai, est-ce qu'une rupture générationnelle est possible?
Justement, moi, je voulais revenir sur ce groupe de mots-là, rupture générationnelle. Il faut voir la politique en France, aux États-Unis. C'est des mots qu'on lance pour la presse et les spécialistes pour en faire un débat. Et là, il a été malin, ils ont conçu un groupe de mots, rupture générationnelle. Mais qui va faire cette rupture? Lui, qui, parce que quelque part, on peut dire qu'il s'est nourri du sein ou du lait du PNDS. Il était PNDS quand il avait quitté la douane, c'est pour aller là-bas. Il est devenu au PNDS, on l'a chassé du PNDS. Il est encore revenu par une alliance pour être ministre des Affaires étrangères. Moi, comme Gary l'a dit, j'aurais voulu, en quittant, on peut quitter, on peut se séparer chaque fois, on se sépare, c'est Dieu qui unit, c'est lui qui sépare. Mais tu fais un discours policé. tu n'as pas besoin de d'aller frontalement pour attaquer quelqu'un. Et tu joues demain à la victime au cas... C'est ça, hein. C'est au cas où quelque chose demain lui arrive, on va dire, c'est parce qu'il a fait ça. Oui, c'est ça, c'est la victimisation. On se sait, comme l'a dit Issa, dans ce pays. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, personnellement, moi, je ne suis pas encore vieux, je suis dans la quarantaine, mais aujourd'hui, tous les jeunes-là qui pensent pouvoir sauver ce pays... Que ce soit les jeunes politiques ou les jeunes leaders, comme ils se présentent, chacun il s'élève, il veut être président de quelque chose. Il faut voir tous les jeunes leaders. Chacun crée un mouvement, il veut être leader, président de quelque chose. Ça, c'est la meilleure façon de tromper les gens pour s'enrichir. Et même dans la politique aujourd'hui, celui le président de ces gens-là, il va parler à leur nom. Et c'est toujours comme ça. Moi, vraiment, on en a
assez. Le changement, est-ce que alors, finalement, mais, laissons ces groupes de mots rupture générale, est-ce que le changement est possible avec nous, avec la classe politique?
Il ne faut pas être utopique. Hein. Mm-hmm. Et moi, je suis d'accord. Ibrahim, c'est, si on met tout de côté, c'est l'un des jeunes promoteurs de la classe politique nigérienne. S'il est prudent, s'il a des gens qui le conseillent, et c'est ça qui manque au sein du parti. Personne ne peut lui parler au sein du parti. C'est un jeune promoteur. Mais est-ce que en 2021, est-ce que ce n'est pas très tôt ce qu'il est en train de faire? Ham l'a fait. Il a claqué la porte de la mouvance présidentielle trois ans ou deux ans avant là. Et aujourd'hui, il est même incapable de vivre chez lui. Donc, vous voyez, non?
Bien.
Quand tu attaques un régime, on a toujours des choses contre toi qui
vont réagir.
Et demain, tu paieras les pots cassés.
Peut-être un dernier mot, Issa, sinon on passe...
Non, moi je pense que la rupture générationnelle dont on parle, c'est vrai, c'est un groupe de mots, mais quand même, c'est le mot. J'aurais bien voulu qu'on passe, qu'on soit plus précis, renouvellement de la classe politique. Ça, c'est bien possible, moi je le pense, hein, parce que c'est pour cela que je soutiens toutes les structures de jeunes au sein des partis politiques. Et je pense qu'ils doivent jouer un rôle pour ce qui ne doit pas être toujours derrière, seulement vivre avec des impositions, non. Qu'ils doivent s'affirmer au sein de ces partis politiques. Parce que c'est ça qui montre le dynamisme de la démocratie à la base et pour le faire rayonner en haut. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il est temps, parce qu'il faut le reconnaître, il faut le dire clairement. Hein. La classe politique actuelle, issue de la conférence nationale, a montré ses limites.
Bien. Un dernier mot, en 10 secondes.
Oui, ce que j'ai dit, je le répète, le sujet national, c'est bien joli. Mais avec qui? Vous avez Nader Roubaix qui est instable, qui ne sait même pas où il va, qui va à gauche, à droite, qui, dès qu'on croit un front, il va là-bas, il veut se faire populaire, qui ne se retient pas dans ses sorties médiatiques. Vous avez ici des gens qui ont été avec le régime, Nader Roubaix même a soutenu Issoufou. Vous avez des gens qui... La rupture générationnelle va venir des gens nouveaux.
Des gens qui n'ont jamais eu à travailler avec ces gens. Parlons sécurité à présent. Dans la région d'Agadez, la situation sécuritaire est de plus en plus alarmante, avec notamment la présence de groupes armés, dont des étrangers signalés par les populations. La question de l'insécurité était même à l'ordre du jour du comité régional de paix d'Agadez, qui s'est réuni en session extraordinaire le samedi 9 juin dernier. Boutali Chiwaren, voilà, chargé de communication du comité de paix, décrit la situation en ces termes. Il est au micro de Moussa Maman.
Il y a beaucoup de problèmes de sécurité dans la région d'Agadez. Donc en parlant de banditisme, en parlant des étrangers qui sont lourdement armés et qui se baladent comme ils veulent dans la région, il y a aussi le problème de l'immigration. Donc on va parler de tous ces problèmes-là ici toute la journée. Il y a un manque de confiance entre le FDS et la population. La population, depuis aujourd'hui 3 ans, ils ont prévenu au plus haut niveau qu'il y a une situation d'insécurité, qu'il y a des gens qui se baladent dans la zone. Il n'y a rien qui est fait, parce que même hier, ici, tout près à Ijoua, il y a un véhicule qui a été pris par des étrangers lourdement armés. Donc vraiment, la population, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas écoutés. Ici, à Tchibarakatin, on a vu des éléments qui sont derrière des dunes, qui sont là, avec des doucettes et des armes lourdes. On vient prévenir l'armée qui était sur place. Ils ne sont même pas partis voir. Donc, c'est pour témoigner, pour dire que vraiment, la population est fond de l'armée. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard. La solution qu'on attend, que l'État, qui a le devoir de prendre la sécurité des populations, fasse leur travail.
Vous venez d'écouter donc Boutali Chiwaren, chargé de communication du comité de paix d'Agadez, sur la situation sécuritaire. Alors, Rufai Dandoua, quelle lecture faites-vous à propos de cette situation d'insécurité qui prévaut dans cette région, déjà confrontée à l'arrivée massive des migrants?
Oui, et je crois qu'on a parlé la semaine passée de cette arrivée massive des migrants qui ont envahi pas que Agadez seulement, même Niamey. Sûrement, ça va être aussi les autres régions du pays. On en a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines sur le flux massif des migrants ici au Niger qui ont envahi Niamey. On les rencontre même à côté de chez vous. Vous vous rappelez, et on a parlé aussi. Et l'OIM leur prend des maisons pour les caser. Et à Agadez, aujourd'hui, tout le monde passe par là-bas. Vous voyez, non? Pour aller en Libye, pour aller en Algérie. Et aujourd'hui, quand ils viennent, ils sont de toute nationalité. Imaginez ce que ça peut créer comme insécurité.
Là, on parle de groupes armés, des gens
oui.
qui sont lourdement armés.
Dans ces gens qui sont lourdement armés-là, il n'y a pas des Nigériens, il n'y a pas que des Nigériens. Il y a des gens de toutes les nationalités. Mmh, différentes. Lorsque vous venez dans un pays ou dans une région, et que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aller hors du Niger et s'enrichir. Si vous pensez que en intégrant ces genres de groupements, vous pouvez facilement avoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va vous empêcher de le faire? Et en plus, on sait que depuis la guerre de la Libye, avec la porosité des frontières, et on ne peut plus rien contrôler. Les armes circulent comme de sorte que personne ne peut contrôler cela. Et lorsqu'il y a l'entrée des armes, l'entrée des bandits de part et d'autre, donc c'est normal qu'il y ait insécurité dans ce genre de contrées comme Agadez.
Bien. Gare Amadou, on a aussi souvent noté des accrochages entre forces de l'ordre et certains groupes armés dans cette zone, des attaques qui auraient lieu récemment. Nos correspondants à Agadez ont même tenté d'avoir la version officielle, mais en vain, les autorités régionales refusant de s'exprimer sur le sujet. Que peut-on dire de la gestion aujourd'hui de cette situation, surtout dans cette zone, dans ce contexte de rétention souvent d'informations?
Oui, mais vous savez, il y a des informations parfois qui concernent la sécurité nationale où c'est pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse de la communication à l'emporte-pièce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dès que l'événement se passe et puis le gouvernement appelle les journalistes, bon, venez. Et puis non, ce n'est pas comme ça. Il faut toujours peser comment. C'est une zone extrêmement difficile. Les zones désertiques, c'est extrêmement difficile de les contrôler. Les forces de défense et de sécurité font ce qu'elles peuvent, mais en réalité, l'insécurité a été aggravée depuis l'introduction de la loi de 2015 là, contre l'immigration.
Qui criminalise
l'immigration, parce que les jeunes dans la région ont beaucoup profité de cette question de l'immigration. Il y avait une économie parallèle qui s'est créée, n'est-ce pas, avec cette question de l'immigration là,
qui tombe drastiquement.
Et aujourd'hui, les jeunes sont dans une situation de chômage, ce qui est extrêmement périlleux. Je l'ai dit déjà sur l'autre. J'ai dit attention, la jeunesse d'Agadez aujourd'hui, elle est désemparée. Et parce que on a fermé le robinet qui leur permettait d'avoir quelques revenus, maintenant ils sont laissés à eux-mêmes. Il faut faire attention. Il faut trouver un moyen pour pouvoir les réemployer dans un autre système économique.
Il y a certains projets quand même qui interviennent pour aider certains d'entre eux, même si c'est pas tous.
Non, mais les gens se plaignent. Ils disent que non, même les gens qu'on sélectionne à qui on donne, c'est pas les vrais méritants. Donc ça c'est un problème. Mais nous, c'est que cette question d'insécurité. Il y a l'accrochage par exemple entre ces véhicules là qui proviendraient de bandits en provenance du Tchad, qui sont partis dépouillés, et qui sont tombés ni à ni avec les FDS au niveau de l'arbre du Ténéré, je crois.
Oui,
il y a deux morts. Voilà. Et deux morts parmi les forces de défense et sécurité et plusieurs morts au niveau des bandits qui ont pris la fuite. C'est-à-dire que ça prouve que il y a du travail à faire. C'est vrai, le Niger est un pays vaste, mais il faut que les forces de défense aussi se redéploient encore beaucoup plus pour pouvoir maîtriser ces bandits armés-là qui mettent la population dans une situation difficile.
Issa Amaru.
Moi, je pense que cette situation a été déjà prévisible depuis plusieurs mois, depuis que cette crise s'est présentée. Les migratoires se présentaient en notre pays. Il faut voir le contexte dans lequel on se trouve. Moi, je trouve qu'il y a des choses que aujourd'hui le gouvernement doit clarifier par rapport surtout à l'avenir massif de ces migrants au niveau qui sont chassés de l'Algérie. Est-ce que le Niger a un accord pour recevoir tout au Niger? C'est ça la question. Est-ce que le Niger, il faut que les autorités le disent clairement. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne sommes pas le seul pays limitrophe?
Pour vous, ces migrants sont aussi source d'insécurité.
Ben, bien sûr, quand vous voyez ces gens qui ont quitté, qui disent qu'ils ne sont pas prêts pour retourner dans leur pays. Donc, ils sont prêts à tout. Ça peut développer le mercenariat. C'est des gens qui sont issus, par exemple, quand vous prenez les Érythréens. Je n'ai rien contre les Érythréens. Mais dans un pays où le service militaire est interminable, voyez-vous que ces gens-là qui savent manier tout, aujourd'hui, qui sont prêts à tout pour avoir une vie décente. Vous pensez que ces gens-là ne sont pas vulnérables à être instrumentalisés? Voyez-vous ce que ça veut. Alors, et d'ailleurs, même la gestion par OIM, elle est douteuse. Regardez comment l'OIM fait. On a des gens qui connaissent très bien les routes du désert. Aujourd'hui, quand il s'agit d'aller récupérer ces migrants qui sont chassés de là, parce qu'aujourd'hui, l'Eldorado, ce n'est plus la Libye, parce qu'ils savent que c'est l'Algérie. Les gens affluent vers l'Algérie. Quand l'Algérie les refoule, qu'est-ce qu'il y a? L'OIM, la majorité même des véhicules et des chauffeurs qu'ils utilisent, on les amène quelque part. Au lieu d'utiliser ces gens-là, à qui aujourd'hui qui ont des véhicules, vous faites ces petits contrats pour leur donner, pour leur permettre de survivre.
Qui sont déjà
qui connaissent, à qui on a interdit l'activité, on peut leur donner les contrats, d'aller récupérer ces gens et de les amener. Ça leur permet d'être en sécurité.
Bien.
Ils peuvent venir à leurs besoins. Maintenant, quand on voit aujourd'hui l'afflux, c'est ça qu'on ne peut pas le comprendre, mais je vous assure, de la manière dont ces organisations internationales sont en train de gérer ces flux de migrants, ça risque d'exploser un beau jour.
Bien.
Quand vous regardez à Niamey et à Agadez, pour finir, on vient, on les loge dans des endroits. Bien, pendant que le jeune Nigérien qui n'a pas de travail voit que dans son état, on est en train de gérer quelqu'un d'une manière vraiment royale, ça frustre. Hein. Il faut voir aujourd'hui ce que ça en train de faire. Ça développe non seulement la prostitution, surtout chez les jeunes femmes. Il y a deuxièmement la criminalité. Le Niger n'est pas une poubelle.
Et ça, cette insécurité, c'est aussi dans la région de Tillabéri aussi, on a vu de plus en plus le long de la frontière avec le Mali une situation aussi d'insécurité, notamment des communautés peules qui se font souvent massacrer, entre guillemets, et des groupes comme le Gatia et le MSA du Mali sont souvent indexés par le Conseil Nord Tillabéri.
Mais la situation, cette insécurité devient de plus en plus résiduelle. Mais c'est qu'il ne faut pas aller vite en besogne pour dire qu'il y a des conflits communautaires. D'abord, parce que là où le problème se situe, c'est quand Barkhane collabore avec ce groupe, ces milices MSA, le SEMA et Gatia. C'est ça, on ne peut pas avoir des gens qui n'ont aucune formation militaire et idéologique. Qu'on leur permet de sécuriser, ils vont sécuriser quoi? Ils disent qu'ils sont en train de combattre les djihadistes qui sont là. Pourtant, on le sait qu'eux, ils sont plus nuisibles pour les communautés de par les frontières. Quelle que soit, qu'est-ce que ça votre communauté, ces milices sont plus nuisibles pour ces gens-là que les islamistes.
Oui.
Je veux dire quelque chose. Tout ça, Gary a dit quelque chose de très important dans le domaine militaire ou d'insécurité. C'est comme dans le domaine de la finance et des banques. On ne sort pas à tout moment pour communiquer. C'est ce que je comprends ce qu'on a fait pour diaboliser le Niger. Il n'y a aucun pays au monde, je vous dis, aucun pays au monde où il n'y a pas de petites poches d'insécurité. Ce pays-là n'existe pas. Il n'existe pas dans le monde. Aux États-Unis, aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, tu vas voir un jeune Américain qui prend arme pour tuer 20, 30, 40 personnes dans une classe.
Et pour dire quoi
Oui, j'arrive. Et ça, c'est même chez les jeunes. Sur les frontières américaines, en France, partout au monde. Mais nous, on fait en sorte que on communique sur ça, sur le plan avec les médias internationaux, pour montrer que le Niger, c'est un pays d'instabilité. Il ne faut pas le fréquenter. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, toutes ces bases militaires qui sont venues, c'est après toute cette campagne médiatique qui a diabolisé
qui a été fait par qui?
Par les médias internationaux aussi. Mais nous, comme on n'a pas la puissance médiatique forte pour contrer cela, on tombe aussi dans cela pour montrer que nos frontières sont poreuses. Tillabéri a toujours des attaques. Il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas ce genre d'insécurité.
Gary Amadou, ce que Rufai dit est vrai. En réalité, par exemple, si on doit prendre même le pays le plus dangereux au monde, c'est les États-Unis. Parce que sur les États-Unis, on achète les armes au marché. Il faut relativiser.
Oui.
On achète les armes au marché. C'est comme dans une boutique, vous partez et puis vous achetez un pistolet. C'est le pays où on risque beaucoup de se faire tuer. Donc, il faut relativiser. Maintenant, sur le plan concernant la question de l'immigration, même moi, j'étais heureux à un moment. Le ministre Bazoum a protesté à l'endroit des autorités algériennes. Il a dit non, le Niger ne doit pas recevoir. Sur la base de quoi vous nous renvoyez tout? Pourquoi? Moi, je peux comprendre qu'on renvoie des citoyens nigériens.
Mais
on envoie tout le monde. Et pourquoi? Sur la base de quoi? Pourquoi? Donc, concernant l'insécurité au niveau de Tillabéri, c'est une question extrêmement grave. Parce que, effectivement, et malgré ce qu'on cherche à cacher, il y a des conflits communautaires entre
Vous savez, les peuples de Tillabéri ont beaucoup subi les assauts de certains groupes qui venaient du Mali, qui venaient, qui tuaient les gens, qui prenaient les gens en otage, qui prenaient du bétail. Je crois que le Diallo de l'ODLH avait déjà dit ça. Dans beaucoup d'interviews, il avait expliqué cela. Les peuples de la région de Tillabéri sont en train de subir des assauts de certains groupes, n'est-ce pas, qui appartiennent à une communauté au Mali. Je n'aime pas citer de trucs, mais et à un certain moment, quand la dernière attaque a eu lieu, où il y a eu 17 morts, à Agay, les gens se sont dit, bon, écoutez, il y a le choix à faire. Soit on croise les bras, et puis ces gens-là peuvent revenir un jour nous massacrer, ou bien on s'organise. Pour moi, normalement, il ne doit pas s'organiser. Ce qui veut dire que s'ils sont en train de s'organiser, c'est que quelque part l'État a failli. Il faut que l'État mette en œuvre le monopole de la violence, que l'État puisse sécuriser les populations. Ces populations au niveau d'Agaï, au niveau de toutes les... Il faut que l'État se donne les moyens. Oui,
alors,
clair.
Nous finissons avec... Gare, nous allons finir avec cette Coupe du Monde qui se joue actuellement en Russie. La Russie, j'ai dit, qui accueille cette Coupe. 5 pays africains déjà y prennent part. L'Égypte, le Maroc, la Tunisie, Nigeria et le Sénégal. Alors, comment vous voyez la participation des représentants du continent africain et sur quelle équipe faut-il poser ses espoirs?
Oui, bon, c'est vrai que quand même l'Égypte avec Salah, s'il est rétabli complètement, bon, mais les informations déjà qu'on a ne sont pas très bonnes. Ils ont perdu un match déjà. Bon, je pense que moi, mon espoir, c'est sur le Sénégal. J'ai vu ce que José Mourinho avait dit, on avait expliqué, on lui avait dit de faire un truc politique. Il dit que non, la poule du Sénégal, lui, il prévoit que le Sénégal va devenir premier. Bon, mais ça, c'est théorique, ça. Ça, c'est pas, le football, c'est pas sur une palette, c'est sur le terrain. Donc, en théorie, il dit que le Sénégal va devenir premier de la poule, là. Mais ça reste à vérifier. Mais pour moi, les espoirs, la surprise va venir du Nigeria. Parce que le Nigeria a une très bonne équipe. Et je pense qu'ils vont faire quelque chose d'exceptionnel. Le Sénégal aussi va faire quelque chose d'exceptionnel. Mais l'Égypte, j'ai l'impression que l'Égypte se focalise plus sur Salah que sur autre chose. Et ça, c'est un
qui est déjà blessé. Qui est en convalescence.
On commence à voir déjà les failles.
Madougou, rapidement.
Oui, moi, je pense que ces représentants africains sont de bonne facture. Ils peuvent faire un jeu. Mais quand même, oui, je dois se dire que personne ne part à la Coupe du Monde pour perdre. Tout le monde est ambitieux. C'est à partir des qualifications qu'on a pu identifier.
Quelle est l'équipe qui vous enchante?
Toutes. J'ai espoir. J'ai fond d'espoir sur toutes ces équipes. Bien. Parce que je pense qu'on doit mouiller le moyen. Sauf que j'attends seulement de ces internationaux africains. De la même manière, dans un club, ils sont en train de jouer. Ils doivent le faire pour leur drapeau. Et également, je pense que l'Afrique devrait s'unir derrière ces équipes pour les apporter leur soutien, mais pas comme ce qu'ils ont fait, ces 11 pays traîtres qui n'ont pas voté pour le Maroc lors de
nous allons parler de ce sujet-là. Rufaid Dandoua,
pour moi la meilleure équipe sur laquelle j'allais fonder mon espoir, c'était le Maroc. Malheureusement, le Maroc est tombé dans la poule presque de la mort avec le Portugal et l'Espagne. Ça va être extrêmement difficile, mais sinon, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Sénégal, Moi, je ne crois pas beaucoup. Je pense que le meilleur parcours pour un pays africain, meilleur parcours serait d'atteindre le quart de finale. Vraiment, si on a un pays qui atteint le quart de finale cette année, il faut dire merci. Mais sinon, vraiment, je ne vois pas le pays africain. L'Égypte, c'est vrai, c'est un collectif fort. Ils ont déjà perdu 1-0.
Ils peuvent se rattraper.
Oui, c'est possible parce que de l'autre côté, il y a l'Iran et la Russie. Ils peuvent battre ces deux équipes. On peut espérer une qualification. Mais quand même le Nigeria qui va jouer la Croatie, qui va jouer l'Argentine, ça va être extrêmement difficile.
Alors, Rufai, toujours au niveau de la Russie, il y a eu aussi cette élection pour désigner le pays qui va organiser la mondiale 2026. On a vu que le trio USA, donc États-Unis, Canada, Mexique, l'a remporté face au Maroc qui a perdu. Le Maroc, il faut le rappeler, ce n'est pas la première fois qu'elle se propose. Le Maroc, il se propose donc d'organiser la Coupe du Monde. Alors, quelle analyse faites-vous de cet échec du Maroc?
Il se porte déjà candidat pour 2030. C'est la preuve qu'ils veulent à tout prix organiser et ils ont les capacités pour le faire.
Ils ont les capacités.
J'ai vu leur dossier depuis 1998 quand ils ont voulu organiser face à la France. Ils ont un bon dossier. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était une défaite prévisible. Quand vous avez entendu Trump
qui a menacé des pays du monde pour dire que si vous, surtout africains, si vous ne votez pas pour le trio américain et canadien et mexicain. Vous voyez, demain on nous fait croire que non, le politique ne doit pas s'ingérer dans les affaires du football, mais c'est faux. Voilà quelqu'un qui menace des pays pour leur dire votez pour moi ou bien vous aurez des sanctions. Au-delà de tout ça, et ça on peut le comprendre, on sait qu'il y a toujours de l'ingérence parce que le football génère beaucoup de profits, mais c'est le fait que des pays africains.
Il y a eu des pays africains qui n'ont pas voté pour le Maroc.
Une dizaine de pays africains qui n'ont pas voté pour le Maroc. C'est maintenant, tu comprends que l'Afrique, a énormément de retard pour aller de l'avant. Et je comprends pourquoi on n'arrive même pas à construire notre propre siège au sein de l'Union africaine. Parce que on n'a pas une unité entre les pays africains et, comme le dit l'autre, au ventre affamé, n'a point de
raison.
Certains n'ont pas voté pour le Maroc, ils ont voté pour les États-Unis.
Garé, l'échec du Maroc, comment vous l'analysez?
Moi, ça m'a choqué quand j'ai entendu que des pays africains n'ont pas voté. Mais comment des pays africains vont avoir peur de Trump? Trump qui a passé tout son temps en train de menacer le petit Kim Jong-il.
Kim Jong-un.
Oui, Kim Jong-un plutôt. Et qui est venu s'asseoir avec lui, le petit, est devenu. Ah, mais il est venu s'asseoir avec lui au couteau de la même table et signer un document avec tous ceux qui pensent là que les États-Unis sont une grande puissance. Le petit a la maîtrisé, le petit l'a ramené à sa place.
Bon, c'est pas ça le sujet.
Non, c'est pas ça le sujet, mais enfin, je vais dire par là les menaces de Trump. Quand même, moi, ça m'a fait honte, ça m'a fait. J'ai envie de vomir quand j'ai entendu que les pays africains n'ont pas voté pour le Maroc. Quand même, ça aurait été une fierté. Après, l'Afrique du Sud qui a organisé la Coupe du Monde en 2010, je crois.
De l'organiser à nouveau sur le continent.
Sur le continent. Mais c'était. Comment aura-t-il une occasion? Mexique, Canada, États-Unis. Des pays qui sont. C'est vrai, les États-Unis ont une zone d'équipe.
À 3h, 4h du matin,
quand même,
pour regarder
quand
le
même.
Match.
Mais est-ce que ça, là, c'est un scandale?
Et ça, Maru Marugu?
Moi, je pense
pour
que
finir,
c'est.
Pour finir, nous finissons.
Ce choix-là vient de nous montrer que Infantino n'est pas plus que meilleur que l'équipe. Et son équipe n'est pas plus que meilleur que l'équipe de Blatter.
Non,
et les autres.
Le pur président.
C'est le pur président. Il a montré que le politique peut. Trump ne sait même pas si les États-Unis se portent candidat. Il fallait quelques jours où on est venu lui faire le point que les États-Unis est candidat avec deux pays de l'Amérique pour organiser. À ce temps-là, il a fait ce titre. Si des pays peuvent fléchir à cause d'un simple titre, imaginez s'ils étaient en face de Trump. Ils allaient faire.
Donc pour vous aussi, c'est la déception.
Non, mais c'est la déception. Mais parce
et
que
on a vu un Maroc persévérant qui.
Oui, effectivement, c'est ces pays africains.
C'est la désunion de l'Afrique.
Oui, c'est ce que. Voilà, effectivement, le Maroc a été victime de cette désunion de l'Afrique. Et ce qui est surprenant. Comment vous, je peux pas comprendre les pays, par exemple, comme la Guinée et d'autres pays
qui bénéficient de dernière information, la Guinée a dit que son vote a été truqué, que eux, ils ne peuvent pas se tromper sur le nom du Maroc. Ils ont voté pour le Maroc. Mais bon,
c'est ce que ça a dit. On a dit 11 pays, les 11 pays, c'est ce qui s'est passé là. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est une honte continentale.
Bien, fin du forum de ce soir, le forum de la presse. Nous étions avec Issa Amor Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré, Garé Amadou, au quotidien La Nation et Rufai Dandoua. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les forums du week-end en Hausa, le samedi en Zarma, le dimanche à partir de 17h15 avec Rekia Arimi et Belkis Amidou. Elles nous feront revivre le combat des femmes pour décrocher la loi sur le quota, le chemin parcouru et ce qui empêche l'application effective de cette mesure au Niger. Bonsoir.